La planèse du jazz, Laurent et Pascal Verdoux.
Bonsoir à tous.
Bonsoir.
Comme vous venez de l'entendre, l'émission d'aujourd'hui va être résolument avicole.
Ce qui veut dire qu'on va parler de poules, de poulets, de etc.
En effet, nous avons promis à une de nos filles auditrices, qui est avicultrice, de consacrer notre émission d'aujourd'hui à son activité.
Les poules, les poulets et tout ça. Kodak.
Ce que vous venez d'entendre, qui est un morceau profondément figuratif,
et plein d'humour,
s'appelle « Ma poule Anatole ». Alors, c'est toute une histoire de vous expliquer pourquoi cette poule s'appelle Anatole, mais nous vous dirons au moins qu'il s'agit du dernier enregistrement d'une séance mémorable de l'orchestre du Moustier Stompers et que cette espèce de dégagement était l'œuvre de notre batteur Bruno Bonté qui, ce jour-là, était, comme vous avez pu le constater,
particulièrement en forme.
Alors maintenant, nous allons passer de la poule, non pas à l'œuf, parce que ça c'est toute une histoire, la poule et l'œuf. Nous allons y revenir plus loin. Là, nous allons passer simplement au poulet.
Oui, les Américains que nous avons connus, qui étaient très souvent des musiciens, étaient fous de poulet. C'est assez curieux d'ailleurs, parce qu'on ne peut pas dire que nous ne soyons pas un pays avicole. On a des tas de choses très très bonnes. Mais eux, par exemple, quand on les recevait à la maison, si on leur disait « un peu de poulet peut-être », parce qu'il fallait faire très attention, ils ne mangent pas les viandes comme nous, etc. « Ah, ok, tout de suite !»
Toujours d'accord. Et d'ailleurs, vous allez pouvoir entendre un peu plus loin dans l'émission que le poulet est très lié à un illustre musicien.
Il y a le poulet dans le jazz, il y a le poulet aussi dans le country, ce qui se comprend un peu. Hein. Country, ça veut dire la campagne. Hein. Et là, il y a quelqu'un qui a fait un petit mélange entre le jazz et le country.
Oui, c'est un clin d'œil. Hein. C'est un clin d'œil du guitariste résolument jazzman, il faut dire. George Barnes. Alors, il a pris dans le répertoire de la musique country un morceau archi connu et il a appelé cette espèce de pastiche un peu humoristique « Chicken in the rough », c'est-à-dire
« Poulet est dans la difficulté, dans la tourmente, on ne sait pas trop ».
Il faut quand même faire un choix. Vous allez pouvoir écouter maintenant « Le poulet dans la tourmente ».
Parlait de nos musiciens qui aimaient le poulet, eh ben, il y a des recettes, et en particulier la poule à la sauge, sage hand strut.
Oublions strut, puisque c'est plutôt une démarche ou une danse, une façon de se comporter, mais sage hand nous a quand même interpellés, parce que c'est une poule sage aussi. C'est comme ça qu'on le lit tout de suite.
Oui, c'est peut-être double sens, là. Hein.
Ah, ouais, enfin, jusqu'au moment où on s'est aperçu que ça voulait aussi dire poule à la sauge. Alors là, ça se comprenait nettement mieux. Mais en fouillant encore plus loin, nous nous sommes aperçus que la sage hen était en fait, dans l'argot californien, une fille qui vient du Nevada.
Hein, où ça va se nicher, cette histoire-là.
Oui, que c'est compliqué. Alors, vous me laissez la parole aux musiciens. Et voici donc, alors là, par un orchestre français, un orchestre qui a marqué son époque d'ailleurs. Il s'agissait de Watergate 7, où nous avons beaucoup d'amis ici. Et l'un d'eux se décide à podcaster cette émission sur Radio Margeride ou sur 48FM. Eh bien, il trouvera aujourd'hui, à la date d'aujourd'hui, son propre orchestre immortalisé sur nos ondes avec ce...
Sage Hand Strut.
Thank you.
les Américains et nos musiciens américains, ils adorent vraiment le poulet. Vous allez entendre Louis Jordan qui va vous parler du poulet. Mais du poulet frit, du poulet cuit, du poulet à la sauce. Et alors, le refrain, c'est « Oui, oui, d'accord, mais c'est jamais qu'un oiseau. »
Oui, vous pouvez le prendre par le bout que vous voudrez. Eh bien, un poulet, voilà, exactement. C'est une fine remarque d'ethnologue. Et vous voyez, ce Louis Jordan avait énormément de talent, outre le fait que c'est un précurseur absolument évident du rock'n'roll et qu'il jouait très bien du saxo alto, il faut dire. Le voilà, dans ses œuvres, c'était un chanteur extrêmement populaire et il aimait beaucoup ce genre de paroles un petit peu...
Rigolote,
oui. Et il évoque même Jules César et Richard III. Enfin, c'est,
et allez c'est, donc
voilà, et hop, et allez donc. A chicken ate nothing but a bird.
Chicken, chicken's a popular word, but anywhere you go, you're bound to find a chicken ain't nothing but a bird. Some people call it a fowl, that's the story I've heard, but let them call it this and let them call it that. A chicken ain't nothing but a bird. You can boil it, roast it, broil it, put it in a pan or pot, brown it, eat it with potatoes, rice or tomatoes, chicken is still what you've got. Boy, it was a dish for old Caesar, also King Henry III. But Columbus was hip, he said, take this tip. A chicken ain't nothing but a bird. Pan or pot, brown it, eat it with potatoes, rice or tomatoes, chicken is still what you've got. Boy, it was a dish for old Caesar, also King Henry III, but Columbus was hip, he said, take this tip, a chicken ain't nothing but a bird, a chicken ain't nothing but a bird.
Et maintenant, attaquons Charlie Parker.
Hey yo!
Son surnom, c'était The Bird, ou Bird, tout court. Alors, plein de gens ont fait des extrapolations parce qu'il était libre comme un oiseau, parce qu'il avait une vue des choses vraiment haute, il dominait le monde.
Il y en avait même qui l'avaient vu voler.
Eh bien, en réalité, c'était pas ça la raison. C'est que justement, l'autre nom, du poulet, c'est yard bird.
Oiseau de basse-cour.
Voilà. Et tout simplement parce qu'il s'enfournait des quantités de poulet inimaginables. C'est beaucoup plus prosaïque.
Il a même composé un morceau pour confirmer ce surnom, parce que lui, Charlie Parker, il se foutait totalement d'être appelé bird, poète, ses ailes de géant l'empêchent de marcher, etc. Lui, ça, c'était un type qui n'était pas tellement comme ça. Quand on regarde un petit peu le seul interview qui nous reste de lui et ce que les gens racontaient de lui. Et pour tourner ce surnom un petit peu en dérision, il a composé un morceau qui s'appelle...
Yardbird Suite, une suite, vous savez, c'est des choses qu'on faisait un peu à l'époque Renaissance, et puis beaucoup plus tardif. C'est du pur classique, la suite.
C'est également de l'Ellingtonien. Ellington a composé beaucoup de suites. Alors, il a appelé ça Yardbird Suite. Mais en fait, c'est un morceau de 3 minutes, comme tout le monde, qui est fondé sur les harmonies d'un standard très connu.
Et maintenant, encore quelqu'un qui a un surnom, mais alors le vrai surnom donc, de Poulet, c'est Chick Webb.
Oui, Chick, c'était dû à son physique.
Ah oui, parce que Chick Webb avait une grave maladie des os qui l'avait empêché de grandir. Il était très maigre, très 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 petit, assez déformé. Et effectivement, quand il était tout en haut là, avec sa batterie immense devant lui, on se disait, mais comment ce petit poulet, il va pouvoir jouer de ces instruments monstrueux? Et c'était extraordinaire.
Quand on regarde certaines de ces photos attentivement, on est quand même frappé par la puissance évidente de ses épaules. C'est assez étonnant à voir. En tout cas, il avait une puissance absolument extraordinaire. Tous les batteurs que j'ai rencontrés et qu'il avait connus le considéraient de toute façon comme le plus grand d'entre eux. Et dans un recueil où il explique la batterie, Joe Jones, qui est un autre immense batteur, a dressé à la batterie un petit portrait de Chick Webb que voici.
Now, I knew Mr. Chick Webb, I knew the Peoples, and they've often asked me to try to do a Chick Webb. Well, the only thing that I know that I just ran into of a Mr. Chick Webb would be a little thing that I'm not at liberty because I don't have the equipment to do, but I can remember how that he used to make these things. He used to be playing along, and if you get the record, it's in Harlem, Congo, and he plays it thusly, and I'll try to play. now he plays a thing that nobody's gotten yet, and it goes like this. And then he did a little simple thing. He said, a very simple ending, but I'd like to see you try to do it. Now, he was a man that was a hunchback, and he took a liability and made an asset out of it. See, because they always spoke of Napoleon, but he became a great man with a hand or whatever.
Et maintenant, nous allons aborder le problème que vous attendez tous, celui de l'œuf ou de la poule.
C'est un problème métaphysique qui consiste à se demander si la poule était avant l'œuf ou l'œuf avant la poule. Mais comme l'œuf est dans la poule, on ne sait pas.
Mais comme la poule avant était dans l'œuf, on ne sait pas non plus.
Et ben voilà, et c'est un problème qui n'est pas résolu depuis la nuit des temps.
Sauf que l'étude de ce problème donne une petite idée de ce qu'est le mouvement perpétuel.
À peu près.
Ah, voilà. Alors, évidemment, il fallait quand même trancher dans le vif. Et voici un très vieux problème philosophique abordé, commenté et résolu par ce cher Lips Page,
trompettiste
et chanteur, et qui vous explique pourquoi en vocal et qui vous le commente en trompette.
Et donc, le titre est « The Hen or the Egg ».
Voilà, attention, hein, c'est la poule ou l'œuf. Ce n'est pas la poule. Et l'œuf, ah, c'est trop facile, pourquoi pas le beurre et l'argent du beurre, je vous le demande.
Funny question that comes up now and then. What came first, the egg or the hen? I went into the hen house, and what do you suppose? Not even the rooster knows. The rooster says that gets me, but I'll find out, my friend. What came first, the egg or the hen? He called the hens together outside the barnyard gate and said, hens, let's get this straight. The hens all cried, oh, first came us. And then the rooster, he began to fuss. He grabbed a hen right by her leg and asked her how she got here without an egg. And so it's still a mystery, just like it's always been. What came first, the egg or the hen? But long as there are chickens and eggs to put in cake, what difference does it make? All cried, oh, first came us. And then the rooster, he began to fuss. He grabbed a hen right by her leg and asked her how she got here without an egg.
Maintenant, je te pose une question très importante. Quelle est la forme d'un œuf ?
Normalement, c'est ovoïde.
Ah, très bien répondu. Mais pas toujours. De même qu'à Pierrefort, il y a un concours célèbre de boules carrées.
N'est-ce pas ?
Eh bien, il y a, dans la basse-cour de Wild Bill Davis, le célèbre organiste, un oiseau qui pond des œufs carrés.
Et alors là, Je ne vous dis pas que c'est simple. Hein, parce que si un œuf ovoïde passe quand même correctement, quand c'est carré, aïe, aïe, aïe.
Là, c'est très dur. Le pauvre oiseau, il dérouille. Et c'est ce que Wellmill Davis, donc, va non seulement vous jouer, mais vous chanter. C'est le cri de l'oiseau qui pond des œufs carrés.
Alors, il y a des hauts, il y a des A, il y a des hauts, il y a des da, de, des...
Et après, il y a ouf. Ça se passe en public, au Birdland. C'est un disque très célèbre de Wild Bill Davis. Et là, il y a de l'idée.
Dee 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 dee. Oh, ah.
quand nous étions petits, mais je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'auditeurs qui maintenant vont se souvenir de l'expression, nous étions en plein marché noir et il y avait des gens qui se faisaient leur beurre.
Et ces gens-là, on leur avait donné même un nom avec uniquement les initiales. On les appelait les BOF, ce qui veut dire beurre, œufs, fromage.
Voilà, parce que je peux vous dire que dans les années 40, vers la fin de l'occupation et début de la libération, donc pendant le rationnement, le beurre, les œufs et le fromage étaient l'objet de trafic extrêmement actif qui se terminait par des billets de 5000 francs pour remplir les lessiveuses. L'expression BOF a prévalu assez longtemps pour que nous nous en souvenions. Et le BOF en Amérique s'appelle...
Big Butter and Egg Man. Big, c'est gros. Butter and Egg, beurreux. Man, bonhomme.
Voilà, le gros bonhomme. Le gros bonhomme, et bien en plus, la chanson dit qu'il vient de l'Ouest, hein, je te signale. Et bien entendu, il vient de l'Ouest pour dépenser son fric. Et c'est là toute la chanson.
Avec Louis Armstrong.
Et Velma Middleton. Ça se passe en public, dans une soirée enregistrée qui a donné lieu, à l'époque, à deux micro-sillons restés très célèbres. Ça s'appelait Louis Armstrong au Crescendo. La boîte s'appelait le Crescendo, c'était à Los Angeles. Big Butter and Egg Man.
Help!
Yeah, baby, I'll be your great big butter and egg man.
Ooh, goody, 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 Pops.
But I'm different, honey. I'm from way down in the South.
That makes it solid.
I'll buy you all the jewelry that will worth the money.
Oh, now watch that Woolworth, Daddy.
As long as I keep a John Ruskin cigar in my mouth.
I'll see to that.
And I'll buy you a real sharp vine.
Yeah, I'm
providing what you told me the other day. Just don't change your mind.
Never happened.
Now I'm your great big buttering egg man.
Mm-mm.
I'm your great big buttering egg man from way down south. Let it come out of your mouth.
Oh, I want a butter and egg man. From way out in the west. Say I get so tired of working all day. I want somebody who wants me to play.
Pretty
have never been mine. But if my dream comes true, forever sunshine.
Take it, Velma.
I want a butter and egg man. Don't some great big butter and egg man.
Whoa.
dois dire que le morceau que nous venons d'entendre, Big Butter and Eggman, c'est le standard de jazz parlant des œufs le plus joué qui soit. Il n'y a pas mieux. C'est vraiment un très grand classique. Et nous avons eu le choix entre 50 000 versions. Mais finalement, on aime tellement Louis Armstrong que nous avions choisi, en fin de compte, de le faire réécouter. Et comme on ne s'en lasse pas, le revoilà. Mais cette fois-ci, c'est plus avec Velma Middleton, mais avec Ella Fitzgerald.
Il y a plein d'expressions autour des œufs, en France comme en Amérique. Et quelquefois, elles se rejoignent tout à fait. On voit la une que vous connaissez bien. Ah là là, il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Ou, oh, quelle erreur j'ai fait, j'ai mis tous mes œufs dans le même panier. Eh bien là, il y a quelqu'un qui dit exactement la même chose.
En anglais, I am putting all my eggs in one basket.
Et oui, il faut faire attention à ça oui, quand
attention,
même.
Attention, attention.
Surtout qu'après, s'il y en a trop, on les casse. Enfin
oui,
bref.
Imaginez que le panier tombe comme le pot au lait de cette pauvre Perrette. Ella et Louis.
I've been a Roman Romeo, my Juliets have been many, but now my Roman days have gone. Too many irons in the fire is worse than not having any. I've had my share, and from now on I'm putting all my eggs in one basket. I'm betting everything I got on you. Mama, I'm giving all my love to one baby. Lord help me if my baby don't come through. I've got a great big amount saved up in my love account. Honey, and I've decided love divided in two won't do. So I'm putting all my eggs in one basket. I'm betting everything I got on you.
I've been a roaming Juliet, my Romeos have been many, but now my roaming days have gone. Too many irons in the fire is worse than not having any. I've had my share, and from now on I'm putting all my eggs in one basket. I'm betting everything I've got on you. I'm giving all my love to one baby. Lord help me if my baby don't come through. I've got a great big amount saved up in my love account. Honey, and I've decided love divided in two won't do. So I'm putting all I'm betting everything I've got on you. I'm putting all my eggs in one basket. I'm betting everything I've got on you.
Yes, I'm giving all my love to one baby. Lord help me if my baby don't come through. Yes, and honey, I decided love divided in two won't do. So I'm putting all my eggs in one basket. I'm betting everything I've got on you. I'm betting everything I've got on you.
Naturellement, nous n'allons pas vous quitter sans évoquer quelques bonnes recettes élémentaires.
Celle du matin, vous savez. J'en vois un devant moi. Qui est là, chouette, le bon matin. Avec ham and eggs. Le jambon et les œufs, miam miam.
Alors, en Angleterre, Eggs and Bacon. Mais en Écosse, Bacon and Eggs. Je vous signale que si vous allez en Écosse, il n'y a pas intérêt à faire une gaffe parce que le petit déjeuner sera morose. Ils sont très susceptibles à Édimbourg. Surtout, bientôt, ils vont être indépendants. Bon,
bref, ceci est une autre histoire.
C'est une autre histoire. D'ailleurs. Alors, nous allons vous livrer coup sur coup deux recettes. La première, comme tu disais, c'est Ham and Eggs. Et la deuxième, c'est une omelette, mais pas n'importe laquelle.
Mmh. Eh bien, c'est une omelette magique, puisqu'elle s'appelle Bop Omelette. Alors, vous me direz, mais qu'est-ce que ça veut dire ?
Ouh, alors là, tout est possible, parce que tu sais que l'arrivée de la musique bop a été ressentie dans le jazz d'une manière extrêmement contrastée. Et c'est pas du tout impossible que le pianiste que vous allez entendre, le grand Earl Hines, ait intentiné pratiquer la mise en boîte. En tout cas là, il a appelé son morceau
Bop Omelette.
Alors vous allez donc entendre, à la file, de quoi vous faire des œufs au jambon, puis une bonne omelette au bop.
Thank you.
On ne peut pas conclure une émission où il est question d'œuf sans penser à ce cher Christophe Colomb. Tout de même. C'est quand même une bonne histoire que celle de l'œuf de Christophe Colomb. Elle est contestée, hein, mais enfin, elle est devenue tellement proverbiale que nous allons la prendre pour vraie. Christophe Colomb rentre d'Amérique couvert de gloire et de réputation.
Et au cours d'un dîner, parce qu'il était très invité, n'est-ce pas ? Au cours d'un dîner, tout le monde s'émerveille du fait qu'il a découvert l'Amérique à quelque chose près. Je dis bien quelque chose près, parce qu'il croyait avoir découvert les Indes au départ. Et il y a un des convives un peu beaucoup jaloux qui dit « Oh, pff, fallait juste y penser ». À ce moment-là, Christophe Colomb, pas content. Hein, il prend sur la table un œuf dur et lui dit « Faites-le tenir debout ».
Évidemment, le type n'arrive pas. Il arrive d'ailleurs d'autant moins que, comme sa réflexion le prouve, il était complètement stupide. Il rend l'œuf à Colomb en lui disant « C'est impossible ». Colomb prend l'œuf, il l'écrase sur la table, juste un petit peu, tu vois, pour aplatir la base. Et puis évidemment...
L'œuf tient.
L'œuf tient. Et Colomb regarde le type et lui dit, il suffisait d'y penser.
Eh ben ouais. Voilà.
Voilà l'histoire. Les Américains sont très reconnaissants à Christophe Colomb d'avoir découvert l'Amérique, hein, parce que c'est quand même vrai. Il y a même un célèbre Columbus Circle à New York qui a été baptisé en son honneur. Et dans le jazz, il y a un morceau qui s'appelle...
Christopher Columbus.
Alors évidemment, nous allons conclure cette émission avec Christopher Columbus. Il y a beaucoup de versions, c'est un morceau très connu, Christopher Columbus. Et nous avons choisi une version du grand orchestre de Fletcher Henderson, parce que dedans, on y entend de très beaux solos, de Roy Eldridge, tout jeune à l'époque, et puis d'un homme disparu prématurément, qui était un immense saxophoniste ténor, qui s'appelait Chou Berry.
Ce soir, qu'est-ce qu'on mange ? Des œufs, du poulet, de l'omelette. Bonne dégustation!
Thank you.
C'était la planète du jazz.
À la planète prochaine.